Seigneur, qu'il est bon d'être réuni avec toi, Seigneur Jésus, d'être autour de toi, et de savoir que tu es là au milieu de nous, comme notre bon pasteur, et que tu souffles sur nous ton Esprit Saint. Merci Seigneur d'être venu dans notre monde, où il y a tant de violence, tant d'injustice, où dans le cœur de chacun d'entre nous il y a de la dureté, même si maintenant tu as commencer à ouvrir nos cœurs à l'amour, à la joie, à la paix. Il y a encore tant de choses à transformer dans nos cœurs, Seigneur Jésus, pour être en pleine harmonie avec le cœur du Père, le cœur de tendresse et d'amour infini. Donne-nous vraiment ton Esprit Saint, Seigneur Jésus, à chacun d'entre nous, quelle que soit notre foi, donne-nous cet Esprit mystérieux qui a la clé de la porte de notre cœur, qui peut nous ouvrir à l'amour véritable et à la foi. Cette foi qui nous donne la vie éternelle, qui nous permet d'aller un jour au ciel, si nous vivons cette foi dans l'amour. Alors nous allons entendre la parole de Dieu. Jésus, il y a 2000 ans, comme le disait Thibaut tout à l'heure, passé en Galilée, et il proclamait la parole, il guérissait, il délivrait. Voilà toute l'œuvre du Seigneur pour manifester l'amour du Père. Et aujourd'hui, Jésus continue par son Église. De l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 7, verset 18. Appelant à lui deux de ses disciples, Jean-Baptiste les envoya dire au Seigneur: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de lui, ces hommes dirent: « Jean le Baptiste nous envoie te dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, il guérit beaucoup de gens affligés de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais, et rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Puis il répondit aux envoyés: « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Alors c'est un passage d'évangile très étonnant, ça, parce que Jean-Baptiste, c'est, comme dit Jésus juste après, le plus grand des prophètes, c'est le prophète qui a annoncé immédiatement la venue de Jésus, et voilà que ce Jean-Baptiste doute que Jésus soit vraiment le Messie. « Es-tu celui qui doit venir ?» Je veux dire, « Es-tu le Christ, le Messie, celui que j'ai annoncé ? Est-ce que je ne me suis pas trompé en t'annonçant ?» Ou devons-nous en attendre un autre? Y a-t-il un autre prophète qui doit venir après toi? Pourquoi Jean pose-t-il cette question alors qu'il a une foi terrible, très grande? Il va aller au martyr, il va donner sa foi pour le Seigneur. Pourquoi doute-t-il? Eh bien parce que Jésus, par sa venue, l'a complètement décontenancé. Complètement décontenancé. Rappelez-vous ce que Jean annonçait au début de l'évangile de Luc. Il disait, voilà, à cogner est au pied de l'arbre, et tous les injustes, tous les méchants vont être châtiés. Il disait, voilà, que le Seigneur va balayer son air, et il va supprimer tous ceux qui ne vivent pas dans l'amour, dans la justice. Il va nettoyer son air. Ça veut dire que Jean le Baptiste pensait que Jésus, en arrivant, allait tout de suite poser un jugement qui allait séparer les bons des méchants, et puis les méchants, ils allaient partir directement dans le feu, puis les bons entraient directement dans le royaume. Voilà un peu ce qu'il attendait. Donc il attendait que la venue de Jésus change radicalement la destinée du monde, sans quoi il a raison, mais que ce soit totalement visible, que le royaume soit parfaitement visible pour tous. Soit à travers ceux qui sont châtiés, ils le voient parce qu'ils sont châtiés, ils sont punis pour leur faute, soit à travers ceux qui sont récompensés. Or, le Seigneur est venu et Jean se retrouve en prison actuellement. Quand Jean envoie ses envoyés, il est en tôle, il est en prison, il a été arrêté. Et Jésus est venu, mais rien ne semble changer dans la foi du peuple, même si beaucoup de gens suivent Jésus, rien ne semble changer. Et nous pourrions nous-mêmes nous poser la même question que Jean le Baptiste aujourd'hui. Il y a 2000 ans que Jésus est là. Qu'est-ce qui a changé dans notre monde? Il y a encore des guerres en Syrie actuellement, à Alep, des gens qui se font massacrer. Il y a encore tant d'injustices dans notre monde, tant de mal. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse nous le montre bien. Il y a des bêtes qui s'affrontent les unes les autres, qui sont dans la toute-puissance et qui se détruisent les unes les autres. Quand il y en a une qui disparaît, c'est une autre qui surgit. Tout ça peut être objet de questionnement et nous demander, mais où est ce royaume que le Seigneur annonce? Est-ce que Jésus a vraiment transformé notre terre par sa venue? Donc la question de Jean-Baptiste est une excellente question, et c'est une question que nous sommes peut-être appelés à nous poser nous-mêmes, et nous devons nous la poser. Est-ce que le Seigneur pour moi est vraiment le Messie? Est-ce que moi-même, je peux m'appuyer sur lui dans ma vie? Il est dit qu'à cette heure-là, quand les deux envoyés que Jean envoyait de sa prison arrivent, Jésus est en train de guérir des infirmités, il libère les esprits mauvais, etc. Et donc, sa réponse est très simple. Il dit, bien, rapportez à Jean ce que vous voyez, rapportez à Jean-Baptiste ce que vous voyez, les guérisons que vous voyez, rapportez-les-lui. C'est ça la réponse du Seigneur. Évidemment, c'est une réponse codée, il faut savoir la décoder. Le prophète Isaïe a annoncé qu'au jour de la venue du Seigneur, le Seigneur allait consoler tout le monde et allait guérir, allait opérer des guérisons. Il a parlé du festin messianique. Il a parlé du don de l'Esprit Saint. Donc, Jean le Baptiste, qui connaît bien Isaïe, puisque lui-même, il a dit qu'il est la voix qui proclame dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, c'est une citation du prophète Isaïe. Eh bien, Jean le Baptiste, à travers le prophète Isaïe, doit reconnaître, à travers ses signes, que sont les guérisons, que Jésus est le Christ, le Messie. Il ne s'est pas trompé. La seule chose qu'il doit changer, Jean-Baptiste, c'est sa manière de penser le Messie. Jean-Baptiste, c'est le nouvel Élie. Et Élie, le prophète Élie, eh bien, lui-même, Élie, pensait que le Seigneur allait supprimer tous les méchants d'un coup. D'ailleurs, il a fait tuer tous les faux prophètes. Au Mont Carmel, le prophète Élie avait fait tuer tous les faux prophètes. Il était encore, je dirais, dans la violence, dans le désir que Dieu élimine tous ceux qui sont méchants et ne laisse que les bons. Mais le problème, c'est que si Dieu faisait cela d'un coup, il ne resterait plus grand monde sur la terre. Il resterait la Vierge Marie, et puis quelques saints Joseph, bon voilà, quelques saints, mais la plupart seraient éliminés, on serait tous dans le feu brûlant. Non, le Seigneur a décidé de venir dans la patience. Il a décidé de nous appeler dans la patience et dans la douceur à la conversion à travers des signes, les guérisons qui manifestent que le royaume de Dieu est bien là, mais il est caché. Il faut le voir à travers les signes, les guérisons. Tous ceux qui donnent leur vie pour le Seigneur, ce sont des signes du royaume. Et le royaume sera pleinement manifesté au ciel, pour tous ceux d'entre nous, j'espère tous, qui iront au ciel. Si nous mettons notre foi dans le Seigneur, si nous aimons notre prochain. Pour l'instant, nous sommes encore sous le régime de la foi. Il faut croire. Il y a des signes. Mais un signe, on peut le voir ou ne pas le voir. On peut le croire ou ne pas le croire. C'est pour ça qu'après, à la fin, le Seigneur dit, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Donc le signe principal, c'est que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux qui ne trébuchera pas à cause de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Jésus peut être une source de scandale. Il peut être une source de scandale. Pourquoi? Parce que quand il guérit l'un, celui qui n'est pas guéri à côté, il peut se révolter. Moi, je n'ai pas été guéri, c'est dégueulasse. Pourquoi il a guéri mon voisin? Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Pourquoi il y a encore tant de souffrances dans ce monde? Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Le Seigneur, dans ma vie, c'est difficile. Je t'appelle depuis 20 ans et je ne vois pas ton action. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Il y a plein d'occasions de trébucher à cause du Seigneur si nous ne mettons pas notre foi en lui. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais à Paray-le-Monial et je discutais avec une personne qui m'a sorti deux propos contradictoires en 5 minutes sans le savoir, sans s'en rendre compte. La première chose, elle m'a dit, mais mon père, pourquoi il y a autant de guérisons dans ses prières? C'est pas normal, il n'y a jamais autant de guérisons, non, c'est pas possible. Puis 5 minutes après, elle m'a dit, mais mon père, pourquoi tout le monde n'est pas guéri? Alors, première question, pourquoi il y a autant de guérisons? Deuxième question, pourquoi tout le monde n'est pas guéri? Vous voyez, elle passe d'un côté à un autre, d'un extrême à un autre. Voilà, elle avait du mal à croire, donc elle trébuchait. Bon, heureusement, ça s'est bien terminé, mais elle trébuchait. Il y a des occasions de scandale, même dans le fait qu'il y ait des gens guéris. Pourquoi tout le monde n'est pas guéri? Pourquoi autant de guérisons dans cette église? Voilà, donc, la seule manière de ne pas trébucher, c'est d'être dans l'humilité, de dire « Seigneur, je crois en toi, j'ai confiance en toi. Je sais que tu peux tout. J'ai confiance en toi, Seigneur Jésus. Et si je tombe, relève-moi, Seigneur, par ta miséricorde, parce que je suis pauvre et faible et tu sais que je peux tomber. » Souvent. Voilà. Donc mettons notre confiance dans le Seigneur, demandons-lui de ne pas trébucher à cause de lui, demandons-lui de nous relever quand nous trébuchons, quand nous le critiquons, quand nous nous révoltons contre lui, demandons-lui d'avoir confiance en lui, parce que le Seigneur a donné sa vie pour nous, il est mort pour nous sur la croix, ce qui signifie un amour infini, insondable, incroyable pour chacun d'entre nous. Alors maintenant, je demandais à François-Xavier de venir témoigner. Alors François-Xavier, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, parce que je le connais depuis un certain temps. François-Xavier, il est venu me voir une fois avant la prière des malades à la sacristie. Il m'a dit « Mon père, votre prière c'est super, j'aimerais faire une vidéo sur votre prière. » Moi j'ai dit « Ben pourquoi pas, essaie. » Il a fait une vidéo, et c'est cette fameuse vidéo qui maintenant passe sur YouTube, qui est même passée sur KTO. Et grâce à cette vidéo, beaucoup de monde ont connu la prière des malades, grâce à l'émission qui est passée sur KTO aussi. Ben, c'est François-Xavier qui l'a fait, et je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse un truc aussi chouette avec Philippe. Et ce soir, il va venir témoigner d'une guérison qu'il a obtenue pour son fils. Il va nous raconter tout ça.
Bonsoir. Mon fils Thomas a eu 7 ans hier. Nous sommes vraiment rendus compte qu'il avait des difficultés à parler quand le pédiatre a commencé à s'en inquiéter vers l'âge de 3 ans. Il nous a d'abord dirigé vers un spécialiste pour savoir s'il n'avait pas un problème de surdité. Une séance de test nous a permis d'écarter cette solution. Le pédiatre lui a alors prescrit des séances d'orthophonie 2 fois par semaine depuis presque 4 ans. L'orthophoniste, de son côté, ne constatait pas suffisamment de progrès et une certaine souffrance due à ses difficultés à s'exprimer et à son retard de langage. L'orthophoniste nous a vivement recommandé de consulter un psychologue. Suite à cette recommandation, Thomas en a vu 2, sans pour autant y trouver de solution. Les progrès n'étant pas au rendez-vous, l'orthophoniste, en accord avec l'école et le pédiatre, nous a recommandé de faire aussi appel à une psychomotricienne. Les séances seraient ainsi complémentaires. Pendant ces 2 dernières années, Thomas cumulait des rendez-vous avec plusieurs spécialistes. Chaque semaine, 2 séances d'orthophonie qu'il vivait très mal. Une séance de psychomotricité et une séance avec une psychologue, sans compter d'autres rendez-vous tentés, des tests pour évaluer sa concentration, des tests de QI pour discerner s'il était plutôt un haut potentiel, etc. Toute cette période était très difficile pour lui et pour nous ses parents. Thomas souffrait de ses problèmes de motricité, de langage, d'élocution et de ses difficultés pour s'exprimer. Après toutes ces années d'efforts, sans résultat satisfaisant, nous avons décidé d'arrêter cet acharnement médical sans issue à la fin de l'année scolaire 2016, il y a 6 mois. Peu de temps après, je suis allé, comme à mon habitude, à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. C'était la dernière avant les vacances d'été. Avec confiance, j'étais venu pour prier pour mon fils. Thomas a toujours aimé écouter et lire la vie de Jésus. Et nous avions l'habitude de lui faire le signe de croix sur le front chaque soir depuis son baptême. Souvent, il demande lui-même une petite prière avant de dormir. Et il nous a invité, à Thomas et à moi, de demander à Jésus de l'aider dans ses difficultés. Ce 30 juin 2016, dans l'église, c'est ici, alors que le Saint-Sacrement, la présence réelle de Jésus lui-même, passait devant nous, comme il y a 2000 ans, quelle chance pour ceux qui ont conscience de cela. J'ai été concerné par 2 paroles de connaissance. La première a été dite alors que Jésus, dans l'hostie, était en face de moi. Je le priais pour Thomas, et il m'a répondu sans attendre plus longtemps, par le biais de cette parole. Le Seigneur visite un enfant qui a des problèmes de motricité, surtout d'élocution. Il va pouvoir parler et être libéré. J'avais déjà reçu des grâces dans cette église, et cela s'est passé de la même manière que les autres fois. Ma gorge se serrait très fortement et les larmes coulaient sur mon visage. Puis j'ai remercié le Seigneur, convaincu qu'il avait touché mon fils. La deuxième parole a été plutôt un clin d'œil qui m'encourage à continuer cette belle pratique. Le Seigneur indique les parents dans l'assemblée à faire un signe de croix sur le front de leurs enfants. À travers ce signe, un enfant va être guéri. Les jours suivants, j'ai remarqué une belle évolution. Puis, les vacances d'été, une véritable explosion. Sa timidité a disparu. Il s'est mis à parler énormément. C'était même parfois très fatigant. Et il s'exprime beaucoup mieux. Son vocabulaire s'est enrichi. Une véritable libération, comme annoncé. Merci Jésus, j'ai confiance en toi. Ce soir, à Saint-Nicolas-des-Champs, priez-le, demandez-lui des grâces, remerciez-le, car il est vraiment là.
Voilà, merci beaucoup François-Xavier. Donc, vous voyez que on peut obtenir aussi des grâces pour des personnes qui ne sont pas dans l'Église, comme ça arrive régulièrement. Alors, je vais vous donner d'autres témoignages de personnes qui ont obtenu des guérisons, qui sont venues nous les faire remonter. Donc, Marie-Roselaine, qui a eu un accident de voiture en 2012 avec un traumatisme. Depuis lors, la circulation de son sang était devenue moins bonne, elle avait en permanence froid, des fourmillements dans les doigts, etc. Le 18 février 2016, elle est venue à Saint-Nicolas-des-Champs à la prière des malades, et sans penser à ses propres problèmes. Elle a entendu une parole de connaissance qui décrivait son problème, qui disait que la personne concernée ressentait de la chaleur et des picotements dans son corps. De fait, son corps s'est mis à chauffer, elle a ressenti des picotements, et depuis elle ne souffre plus du tout des symptômes de la mauvaise circulation qu'elle avait, elle n'a plus de mauvaise circulation. Elle s'est dit aussi qu'à travers cette guérison, le Seigneur l'appelait à être plus fidèle dans sa prière. Voilà, merci Seigneur pour cette guérison pour Marie-Roselaine. Un autre témoignage que nous avons reçu. Donc, depuis son opération au genou, 3 mois avant, Adéomi était profondément angoissée, elle avait des crises d'angoisse, sans cesse la boule au ventre. Suite à une parole de connaissance, de guérison, d'une personne qui était guérie d'angoisse, en mai dernier, ses angoisses sont parties totalement. Et en même temps, elle a eu la résolution d'un problème d'atrophie musculaire. Je faisais de la kiné pour ce problème, qui a surpris son kiné, qui a vu un net changement entre la veille de la prière des malades, où elle avait une séance de kiné, et le lendemain, où elle avait encore une séance de kiné. Il a vu que le muscle avait changé. Voilà, 2 guérisons qu'a obtenu Adéomi. Et je vous donne un dernier témoignage. Violette est venue prier il y a 10 ans, elle aussi, pour son fils, qui avait, il y a 10 ans, une grave maladie chronique d'asthme sévère. Il n'était plus scolarisé à cause de cette maladie. Il ne pouvait plus aller à l'école. Donc, suite à une parole de connaissance, une famille venue prier à cause de graves difficultés, elle est venue nous témoigner, donc 10 ans après, que son fils était guéri progressivement et totalement de cette maladie chronique d'asthme. Eh bien, merci Seigneur pour toutes tes grâces, merci pour tout ce que tu donnes dans cette prière. Donne-nous d'y reconnaître les signes du royaume, les signes de ton amour. Donne-nous de ne pas chuter à cause de toi, mais de mettre notre foi en toi. Maintenant, nous allons exposer le Saint-Sacrement. C'est Jésus lui-même qui est notre bon berger au milieu de nous. C'est lui qui guide cette prière, c'est Jésus. C'est le bon berger qui vient au milieu de son peuple, il est réellement présent dans le pain qui est devenu sa chair lors de l'Eucharistie. Et Jésus va venir auprès de nous, donc demandons-lui la grâce, de la foi, de l'accueillir avec foi et amour. Et ne pensons pas simplement qu'à nous-mêmes, pensons aussi à prier les uns pour les autres. Ce qui est important, c'est qu'on forme un corps dans cette prière, on n'est pas tous ensemble, chacun tout seul. On est tous ensemble, un corps, unis, et on prie les uns pour les autres. C'est là où la prière porte du fruit. Amen.